Rotin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caron.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, émission très polaire aujourd'hui. D'abord, je reçois Olivier Norek pour son nouveau roman, mais nous irons aussi chez Bernard Minier pour visiter sa bibliothèque. Un tour chez Sandrine Babu aussi à la librairie L'Instant. Et Sébastien Bordenave éteindra la lumière avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Il est de retour, Olivier Norek, oui, mais surtout Victor Coste, son héros, l'un de ses héros. Ça va pas fort, Coste. Dans cette nouvelle histoire, il traîne un vieux traumatisme que les lecteurs des premiers romans connaissent. Maintenant, il est très loin, puisqu'on le retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous voyez, du côté est du Canada, archipel français, bien sûr, Coste y est devenu le chef de la police aux frontières. Mais en réalité, il travaille pour un service un peu spécial, celui qui est en charge des témoins, des repentis à protéger. En l'occurrence, il doit s'occuper d'Anna, une victime. Elle a été kidnappée 10 ans plus tôt, mais est aussi témoin de plusieurs meurtres. D'ailleurs, le roman commence par l'enlèvement d'Anna à 14 ans, avec un mode opératoire très très particulier et très très pervers. 10 ans plus tard, donc, le rôle de Coste, c'est de la protéger et de lui tirer les vers du nez, et de comprendre pourquoi elle a été épargnée, contrairement aux autres victimes. Le serial killer court toujours d'ailleurs, mais pourquoi les brumes ? Dans les brumes de Capelan, c'est le titre chez Michel Lafon. Bonjour Olivier Norek.
Bonjour.
Le plaisir de vous voir.
Oui, toujours.
On dissipe tout de suite le brouillard. Les brumes, c'est un phénomène météorologique notable à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était le point de départ du roman. Vous vouliez de la brume ?
Je voulais un obstacle. J'adore les obstacles.
Ah.
On pense souvent que... Alors évidemment, pour aller d'un point A à un point B, le meilleur chemin, c'est la ligne droite. Sauf quand on est romancier ou scénariste. Parce qu'aller du point A ou au point B, c'est ce qu'attend exactement ou ce que prévoit les lectrices ou les lecteurs. Et donc, à chaque fois que j'ai un obstacle, à chaque fois que j'ai une impossibilité, eh bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça va me permettre, moi, de changer ce que j'avais prévu. Donc, les obstacles, c'est ce que je cherche à chaque fois que je commence un roman. Et là, il y a 6 ou 7 ans, on m'a parlé de ces fameuses brumes de Capelan. Les brumes de Capelan, c'est donc un phénomène météorologique. C'est la rencontre de deux courants, le Gulf Stream et le Labrador. Ça crée une sorte de chape, un énorme nuage qui fait la taille exacte de l'île de Saint-Pierre, un peu comme s'il avait été créé uniquement pour elle, un peu comme s'il était là pour cacher un secret, un mystère. Mmh. Et c'est ce mystère que je vous invite à découvrir. Ce qui est intéressant dans les brumes de Capelan, c'est que ce sont les plus denses, les plus opaques du monde. J'avais pour habitude de dire que quand on tend son bras, sa main disparaît. Mais ce matin, j'ai lu un commentaire sur mon roman avec un blogueur qui dit que quand on tend son fusil, le canon disparaît. Donc voilà, moi je prends cette image, elle est encore mieux. J'aurais même rêvé avoir cette phrase avant pour pouvoir la mettre dans mon roman. Et donc c'est un obstacle parce que ça va être une enquête à l'aveugle. Effectivement, il y a ce capitaine Coste qui doit s'occuper de Anna, lui faire raconter ce qui s'est passé pendant 10 ans de captivité et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi elle est survivante et que les autres sont mortes.
D'autant que c'est la première victime, la première kidnappée du monstre.
Tout à fait. Et donc Coste s'occupe de cette jeune femme et quand la menace, parce qu'il y a toujours une menace dans un roman policier, quand la menace va arriver sur l'île de Saint-Pierre, c'est ce moment-là que choisissent les brumes de Capelan pour tomber sur l'île et tout effacer.
Mais c'est une magnifique métaphore du roman policier. Il faut forcément du brouillard que l'on dissipe petit à petit, ou pas d'ailleurs.
Oui, c'est exactement ça. C'est un bouquin que j'ai aussi réalisé. Vous savez, un réalisateur, il est chargé donc de filmer les mots qui sont dans un scénario. Ça, c'est un réalisateur de base. Mais le réalisateur artiste, il va avec des images, avec des métaphores, avec sa manière de voir les choses, raconter une autre histoire avec les images et donc appuyer l'histoire originale, la renforcer. Bien moi, c'est exactement ce que je fais. Oui, je vais vous raconter un polar avec un mystère. Il va y avoir donc une sorte de brouillard autour des événements, à savoir qui a fait quoi, qui est l'assassin, qui est la victime. Et donc pour visualiser ça, il y a les brumes. Donc les brumes sont la métaphore des brumes qu'il y a autour d'une enquête de police, évidemment.
Alors c'est donc le retour de Victor Coste, le héros de la trilogie 93. Il vous manquait, ou alors c'est le syndrome Sherlock Holmes, vous avez voulu vous en débarrasser et le public, les lecteurs, vous ont mis la pression pour le retrouver?
j'avais pas vraiment envie de le retrouver, ou alors j'étais un peu trop intimidé pour le retrouver. Quand on fait une trilogie, c'est un peu comme quand on construit un tabouret, bah ça tient sur trois pieds et on se demande pourquoi on en mettrait un quatrième.
Vous m'aviez déjà dit ça.
C'est vrai.
Et voilà donc le quatrième pied.
Et voilà le quatrième pied. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je me suis forcé à ne jamais chercher une enquête pour le capitaine Coste, mais je me suis aussi autorisé à laisser une porte ouverte. Et c'est un capitaine sur lequel j'ai déjà écrit 1500 pages. Et je me suis dit qu'il était assez fort, assez épais, assez vivant, pour me taper sur l'épaule et me dire un jour, voilà, cette enquête, moi, elle me correspond. Et donc, est-ce qu'on a, dans la première trilogie, on a un flic qui est complètement brisé parce qu'il a perdu un membre de son équipe et il ne veut absolument pas être responsable de la sécurité des autres. Donc, il se retrouve dans ce programme de protection des repentis et des témoins. Il s'occupe à la base de repentis, qui sont juste des anciens criminels qui ont retourné leur veste. Et pour lui, se dire que le repenti risque de terminer dans la cale d'un bateau, dans le coffre d'une voiture ou au fond d'un lac, bah voilà, c'est le lot de tous ceux qui ont choisi de faire de la criminalité leur gagne-pain. Sauf que dans le programme des protections des repentis et des témoins...
Il y a des témoins.
Et va arriver donc Anna, cette jeune femme. Donc j'avais...
Mais c'était jamais arrivé dans le programme pour l'instant.
Non,
d'ailleurs, quand l'occasion
inventé, ouais.
se présente, ils se disent « Ah mince, comment on fait ?» Parce que les repentis, ça va, mais les témoins, c'est plus compliqué. Quoi.
C'est exactement ça. Donc dans le vrai programme de protection des repentis et des témoins, avec qui donc, j'ai pu discuter, ils n'ont fait que des repentis. Il n'y a pas eu encore de témoins. Donc le premier témoin que je leur offre, il est fictif, c'est moi qui l'invente.
Ah, dans la réalité, il n'y en a pas eu ?
Non, dans la réalité, il n'y en a pas eu.
Je pensais que c'était que dans le roman. Parce qu'effectivement, bon, c'est comme toujours, dans vos romans, c'est de la pure fiction, mais souvent servi par un décor hyper réaliste avec des vraies informations sur le fonctionnement de la police. Et donc vous parlez de ce service et vous expliquez que, en fait on connaît ce service parce qu'on a vu des polars américains, mais vous expliquez qu'en France en fait c'est hyper récent, il n'y avait pas du tout. Comment ça se fait ?
Ben écoutez, c'est un peu comme c'est un fichier, vous savez, qui s'appelle le SALVAC, c'est le système automatisé des liens des violences avec les crimes. Je l'ai très 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 mal expliqué cet acronyme, j'ai dû me planter trois fois, mais en gros c'est ça. C'est le fichier qui fait que quand on a un meurtre, on va rentrer la météo, l'heure, le type de victime, l'endroit, la manière dont ça a été fait, le mode opératoire, et on va faire mouliner ça dans un logiciel qui va nous dire « attention ». Il y a un meurtre avec le même mode opératoire qui s'est passé à 500 km de là et un autre à 200 km. Et en fait, ça va nous permettre de faire le lien avec tous les crimes pour savoir s'il y a une réitération et savoir si on est en face d'un assassin sériel ou si de tels actes ont été faits à gauche ou à droite en France. Eh bien, ce SALVAC, c'est un fichier que les Canadiens ont depuis 35 ans et nous, ça fait à peine 10 ans qu'on l'a. Les Américains l'ont encore depuis bien plus longtemps. Donc, vous dire qu'on est à la traîne, peut-être pas, peut-être qu'on a du mal au changement, peut-être qu'on prend notre temps, mais c'est vrai que les Américains ont le programme de protection des témoins depuis 40 ans, les Italiens depuis 60 ans. Les Américains, ils ont 200 millions de dollars par an pour ce programme. Les Italiens, eux, ils offrent à leurs repentis une rente à
oui,
vie.
À vie. Alors que nous c'est Français... dès qu'ils arrivent à se recaser, à trouver la tranquillité, on coupe les subsides.
En gros,
c'est pas très encourageant pour des repentis éventuels, quoi.
Bah non, pas des masses en fin de compte, puisque effectivement, dès qu'il est relogé, dès qu'il a une nouvelle identité et qu'il a trouvé un job, on a tendance à les laisser vivre. Oui, bah, peut-être qu'on est un petit peu radin. Vous savez, avant, on avait des indiques. Et les indiques, on leur donnait une partie de ce qui avait été trouvé en perquisition. Ça permettait un petit peu d'avoir les meilleurs indiques possibles. Puis après, on a décidé de moraliser un petit peu tout ça, de les immatriculer. Et puis maintenant, un petit trafic de shit, ça leur revient, ils touchent 300 euros. Un plus gros trafic, c'est 2000 ou 3000 euros. Enfin, ça n'a plus aucune commune mesure avec ce qu'ils avaient avant. Donc c'est pour ça que ça traîne un peu.
C'est radin ou c'est parce que moralement, on se dit on va quand même pas payer une rente à vie à un ancien criminel, même s'il a rendu service ensuite.
C'est tout le problème de la morale. C'est tout le problème de la morale. Quand les Américains font le plea bargaining, c'est-à-dire que en fait, le bargaining, c'est du commerce, c'est du marchandage. Donc à un moment donné, on va marchander avec le criminel pour voir avec lui comment on peut s'entendre. Et c'est souvent des peines qui sont amoindries. Donc oui, il y a dans cette partie de la justice une sorte d'immoralité. D'un autre côté, comment on faisait, nous, pour intégrer les organisations criminelles ? Eh bien, on avait recours à des infiltrés. Mais les infiltrés, ça prend un an, deux ans, cinq ans pour monter jusqu'en haut de l'organisation criminelle. Et il y a aussi toujours le risque qu'ils se prennent une balle dans la tête. Donc voilà, le ratio implication-risque n'était pas vraiment au top. Donc on s'est dit que les repentis, peut-être qu'il y avait un côté peut-être immoral, mais en tout cas c'était beaucoup plus efficace. Et aussi à dire que si c'est un crime de sang, on va pas relocaliser, donner une identité à un criminel. Il ne faut pas que ce soit un crime de sang.
La Voix est Livre, toujours avec Olivier Norek, qui publie bien sûr, chez Michel Lafon, Dans les brumes de Capelan, je crois que c'est son 7e roman et 7e polar, avec le retour en plus de son héros iconique Victor Coste, qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui doit protéger une Anna qui est témoin d'un kidnapping qu'elle a subi 10 ans plus tôt. Il y a eu d'autres victimes du serial killer. Elle a été la seule à survivre. Pourquoi ? C'est toute la question que pose Victor Coste et le roman. On est content de retrouver Victor Coste, on est content d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ça débute avec un autre flic qui s'appelle Russo et que j'ai adoré. Et on le retrouve donc dès le début parce qu'il y a une fausse ouverture et puis il y a des flashbacks et tout ça. Et c'est lui le premier qui est sur l'enquête, qui arrive pendant le kidnapping d'Anna, juste après, qui interroge les parents, etc. Et c'est pas un type vigoureux, BG et tout. C'est un vieux flic cabossé qui a du mal à rentrer dans sa voiture parce qu'en plus, il est un peu fort. C'est agréable à écrire ce genre de personnage, Olivier Norek, non ?
Oui, c'est agréable. C'est agréable parce que je suis pas très très fan. Je n'aime pas les gens lisses, vigoureux et BG, comme vous disiez. Non, j'aime pas les gens lisses et quand.
Je précise que Olivier Norek est vigoureux et BG quand même.
c'est très très gentil. Merci beaucoup. J'ai eu raison de venir. Bah oui, un compliment et puis ça y est, j'ai perdu le fil de ma
Russo.
Parole. Oui, Russo, j'aime pas trop les gens lisses et je dois avouer que quand il m'est arrivé de craquer pour une jeune femme, c'était surtout pour ce qu'elle était. C'était surtout pour son charme, c'était surtout parfois pour son caractère, mais jamais pour une plastique. Et c'est exactement ce que j'aime aussi dans mes personnages. J'aime ce qu'ils sont. Dans Surface, c'est mon 5e roman, je crois. C'est la première fois que j'ai une héroïne féminine. Et comme j'avais absolument pas envie de décrire ses courbes avantageuses et ses longs cheveux qui dévalent en cascade sur ses épaules, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès la première page, je l'ai défiguré, je lui ai tiré dessus en plein visage. Ce qui fait que l'obstacle, à nouveau, c'était de tomber...
Métaphoriquement.
L'obstacle, à nouveau, c'était de tomber amoureux de cette personne pour ce qu'elle était. Et pas pour sa superficialité. Russo, c'est la même chose. C'est un policier énorme. Il est énorme. Quand il monte dans la voiture, le levier de vitesse cisaille sa cuisse gauche, la poignée de porte cisaille sa cuisse droite.
Et la boîte à gants menace de partir vers
par le moteur. À cause de ses genoux qui poussent sur la boîte à gants. Donc voilà, moi j'aime ces personnages qui sont autre chose que les héros qu'on est habitué à voir dans les séries essentiellement américaines, par exemple, où tout le monde est parfait. Moi, ça me fatigue. Donc voilà,
j'adore, mais il reste 15 pages et il s'en va. Il reviendra un peu. Mais pourquoi vous n'avez pas eu la tentation de faire toute l'enquête avec lui ?
En fin de compte, je suis tombé amoureux au fur et à mesure de ce personnage parce que c'est vraiment l'ADN des personnages que j'aime bien. Quoi. Il est un peu bourru, pas très facile à aimer et pourtant terriblement efficace.
Et alors justement, il a aussi un côté, mais ça c'est la situation qui le veut et les circonstances, quand il arrive, parce que donc les parents d'Anna se réveillent, donc dans le flashback 10 ans plus tôt, ils se réveillent et le frère d'Anna, un petit bébé, est au milieu d'eux dans le lit. Or, il l'avait couché dans son berceau et donc il n'y avait aucune raison qu'il se déplace tout seul et qu'il arrive dans leur lit. Donc immédiatement, ils comprennent qu'il y a un problème et quand ils courent vers la chambre d'Anna, ils se rendent compte qu'elle n'est plus là. Et donc, ils appellent la police, etc. Sauf que Russo voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche et notamment, il y a 4 petits trous de vis dans la porte, comme si on avait installé un verrou sur la chambre d'Anna, mais à l'extérieur. Pas à l'intérieur comme une ado, à l'extérieur. Et il y a comme ça tout un tas de petits indices, un peu à la mystère de la chambre jaune, enfin à la whodunit, quoi, à la Agatha Christie, à la Sherlock Holmes et tout ça. On sent que vous avez eu envie de vous revenir un peu au classique du polar.
Alors tout à fait, à tel point que même à la fin de ce roman, c'est pas une construction à la Agatha Christie, mais à la fin du roman, tous les personnages viennent faire une révérence, viennent clôturer un peu cette aventure, un peu comme quand Agatha Christie réunit tout le monde dans le salon pour faire ses déductions et puis à la fin trouver le réel criminel ou la réelle criminelle. Donc, ces révérences, ces références aussi, il y en a aussi pas mal à Raymond Chandler. C'est du biscuit, c'est du petit lait, c'est très très agréable. C'est un peu comme quand un réalisateur fait 2-3 minutes à la manière de. C'est une manière de montrer son amour et son respect. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette introduction, qui est une introduction à tiroir, où à chaque fois qu'on lit un fait, il va être annulé par la situation d'après, ce qui va nous forcer à re-regarder la scène d'une autre manière. Puis après, une fois qu'on est certain qu'on a bien compris, un autre événement fait qu'on doit relire la scène d'une seconde manière. Et à la fin, avec ces quatre petites vis qui sont posées sur la chambre de cette jeune femme, la question se pose de qui enferme sa gosse. Et ça nous force à regarder pour la troisième fois la même situation avec un autre regard et avec une toute autre explication. C'est terriblement, terriblement jouissif de se dire qu'on est un gros chat, que les lectrices et les lecteurs sont des petites souris et que sur à peine 10 pages, on va leur faire changer d'avis 3 fois.
Et oui, puis en plus, ce qui est génial dans ces situations, c'est qu'il y a des indices un peu évidents et puis d'autres moins. Et donc, on mène l'enquête en tant que lecteur. Et moi, par exemple, les quatre petites vis, je me suis dit « Ah, bah, c'est un verrou, eh oh, je suis malin et tout, il ne va pas me la faire, Norek. » Et en fait, la ligne d'après, bah oui, on sait, tout le monde sait que c'est un verrou. Oui, y a pas... Et d'autres, en fait, qui ont l'air évidents et qui ne le sont pas du tout.
C'est moins facile pour moi face à vous, parce que non seulement vous êtes un grand lecteur de romans et de romans policiers, et en plus, vous en écrivez. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu normal que vous ayez un petit temps d'avance sur moi, en tout cas, puisque vous avez les mêmes schémas de réflexion.
Mais est-ce que tous ces indices, vous les disséminez en fonction de leur évidence ou pas ? Ou comment ça marche, en fait ? Est-ce qu'il y a d'autres indices que vous avez laissés, mais qui servent à rien et vous les enlevez ? Ou au contraire, il faut aussi des indices qui servent à rien ?
Absolument pas. Alors effectivement, quand on est auteur, on est multimilliardaire, parce qu'on peut faire des courses-poursuites d'Airbus et ça nous coûte de l'encre et du papier. Mais pourtant, je me dis aussi que mon encre est en or et que je ne supporte pas les longueurs, je ne supporte pas les très très longues descriptions. Les fausses pistes. Les fausses pistes, c'est un manque de respect pour le lecteur, surtout si ça sert vraiment, vraiment, vraiment à rien. C'est-à-dire que voilà, vous venez de lire 50 pages sur une fausse piste, et maintenant, en fait, la vérité, c'est ça. Je vous ai juste fait, en fait, perdre 50 pages. Et les lectrices et les lecteurs n'ont pas le temps de perdre 50 pages. Donc, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas une indication, il n'y a pas un indice qui ne soit pas utile dans le livre, parce que ce bouquin, c'est un puzzle. Au début, moi, j'ai le puzzle complet, je sais exactement quelle image il a, et puis après, je le détruis, j'envoie les pièces dans tous les sens de l'histoire, parce que je sais très très bien où je vais. On a l'impression qu'on pourrait être un peu perdu à la lecture, mais justement, on ne l'est jamais, parce que je ne lâche jamais la main des lectrices ou des lecteurs.
Mais en fait, il y a deux écoles. C'est le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire, Tchekhov disait, s'il y a un fusil au début dans la pièce de théâtre, qu'on voit le fusil, il faut qu'à un moment, quelqu'un soit tué par ce fusil ou qu'on tire un coup de feu avec ce fusil. Ouais. Et d'autres qui disent, ben non, justement, on peut penser qu'il y a un fusil, mais en fait, on ne s'en sert pas. Pour vous, vous êtes, s'il y a le fusil, il faut que ça serve.
Alors, s'il y a un fusil, il faut que ça serve. Mais si effectivement, comme une petite fausse information à gauche, à droite, mais qui prend pas 30 pages, oui, ça je m'y amuse aussi, oui, évidemment.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre, le retour de la vengeance, toujours avec Olivier Norek pour Dans les brumes de Kaplan. C'est chez Michel Lafon, c'est son 7e roman. Vous êtes toujours avec nous, Olivier Norek, et dans votre roman, on poursuit donc un monstre, un serial killer. Il y a une dizaine de victimes, moins une que l'on retrouve saine et sauve dans l'antre du monstre au début du roman. Il y a donc ce serial killer en fuite, ça fait très silence des agneaux, mais Hannibal Lecter est un homme très très intelligent. Or, dans le roman, un des personnages explique qu'en fait, dans la réalité, ce sont rarement des champions d'échecs.
Oui, bon, on a tendance à avoir une sorte de fantasme autour de serial killer, mais Émile Louis est débile, hein, maladivement débile, hein, et les autres sont pas non plus effectivement des joueurs d'échecs. Comment expliquer ça ? C'est assez simple en fin de compte. C'est qu'en face d'un monstre, en face d'un serial killer, comme on en connaît, hein, comme Fourniret ou Guy Georges, on a besoin de se dire que cette menace si forte, si puissante, est obligatoirement accompagnée d'un esprit. Alors que non, en fin de compte, c'est très animal le meurtre. C'est très bestial. Quand j'étais policier, et je le suis toujours, et j'ai travaillé à la crime, j'ai souvent donné des coups de main quand j'y étais pas, j'ai fait la crime de nuit aussi, à la deuxième DPJ, et quand on était en face d'un assassin, on n'avait jamais justement le fameux criminal mind, l'esprit criminel, très éclairé, très intelligent. On avait la plupart du temps quelqu'un qui était prostré sur sa chaise, et voilà, ils n'étaient pas non plus totalement lumineux. Les plus grands cerveaux que j'ai rencontrés, c'est quand j'ai bossé à la financière. Des gens qui étaient tellement brillants que quand je les interpellais, il y avait même un soupçon de respect.
Alors, il y a une dimension psychologique et psychiatrique. Psychologique parce que Coste doit s'occuper de quelqu'un qui est cassé, de traumatisé, la victime, Anna, qui a été kidnappée, qui est restée des années dans l'antre du monstre, en cage, quoi. Et puis, psychiatrique, parce que, voilà, il y a des ressorts psychiatriques aussi. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais ça vous intéresse? Vous allez creuser? Vous rencontrez des psychiatres? Vous lisez des manuels de psychologie?
Bien sûr. Alors, le psychiatre que j'utilise dans ce livre-là, qui s'appelle Melchior, je l'ai rencontré pour de vrai quand j'écrivais Surface. Surface, c'est donc l'histoire de cette jeune femme défigurée, et on va parler de la reconstruction et de l'acceptation, qui sont des sujets qui sont très très récurrents dans ce que j'écris. Là, on se retrouve avec un flic cabossé par une première trilogie qui a perdu un membre de son équipe dont il était responsable et qui a donc une énorme armure sur lui et qui n'a pas du tout envie de la laisser tomber. Et en face de lui, on a Anna, cette jeune femme qui a passé 10 ans en captivité, qui elle aussi a une carapace énorme parce qu'elle n'a pas envie de revivre ça, elle n'a pas envie de s'ouvrir, elle n'a pas envie de recommencer tout ce trajet, même si c'est pour aider à retrouver cet assassin. Et donc on a ces deux personnes qui n'ont pas envie d'être en face, qui n'ont pas envie d'être là, et il va falloir pour se comprendre, pour avancer, il va falloir qu'ils s'adoptent tous les deux. Alors, Coste, au début, pense qu'il n'a qu'à faire parler à Anna, et Anna lui explique très très clairement et très rapidement que si elle doit se livrer, lui aussi doit se livrer, et qu'elle a besoin d'être en confiance. Ils vont donc faire tomber tous les deux leur armure, et quand on fait tomber son armure, bah, le cœur est à découvert, et maintenant il faut savoir lequel va être blessé.
Mais des manuels de psychologie font même partie de la résolution de l'histoire. Est-ce que ce sont de vrais manuels que vous avez recopiés? Parce qu'il y a des phrases extraits de manuels.
Oui, le berceau des dominations que j'ai beaucoup beaucoup lu, beaucoup épluché pour justement créer ce personnage de Anna. Mais aussi justement, j'en parlais, de Melchior. Melchior, c'est un vrai colonel qui travaillait à l'hôpital militaire de Percy. Que je suis allé voir, il s'occupe des gueules cassées, et donc j'ai réutilisé effectivement toutes ses connaissances et tout ce que j'avais appris avec lui pour faire ce travail de psychologie que va devoir faire le capitaine Coste sur cette jeune femme.
On n'a pas le temps de se pencher, ce qui est d'habitude le cas dans cette troisième partie, sur votre discipline d'écriture, mais c'est pas grave parce qu'on l'avait fait la dernière fois. Mais en revanche, je voudrais quand même que vous nous racontiez votre voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que vous êtes resté plusieurs mois. Et je me suis laissé dire qu'il y a eu même un faux départ.
Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon. D'abord, alors je ne sais pas si c'est... Je ne vois pas trop à quoi vous faites référence.
Bah, et parce qu'il fallait tomber au moment où les brumes étaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui n'est pas si évident.
Non, ce n'est pas si évident parce qu'avec le réchauffement climatique, on ne sait pas vraiment quand elle commence. Et c'est presque une attente, en fait. Hein, parce que quand toute l'île va être enveloppée, va être effacée par les brumes de Caplan, autant vous dire que... sur l'île de Saint-Pierre, c'est toute une vie qui change. On vit différemment quand on n'y voit rien. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, par exemple, on passe son temps à se projeter. Qu'est-ce que je fais dans une heure? Qu'est-ce que vous faites après cette émission? Qu'est-ce que je fais demain? Où je pars en vacances? Quel sera le prochain thème de notre roman policier? Donc ces questions qu'on se pose, ce sont uniquement des projections. Et quand dans la vraie vie, on ne peut pas se projeter à plus de 50 cm, eh bien ça fait un énorme travail aussi psychologique, avec une sensation d'isolement, d'enfermement, et puis les nerfs commencent à être mis à rude épreuve. Mais pour en revenir sur ces brumes de Caplan, c'est grâce à une auteure qui habite à Saint-Pierre, qui s'appelle Valentine Imhoff, que je salue et que j'embrasse, parce que tout ça, c'est grâce à elle.
C'est elle qui m'a dit que vous l'aviez appelée, vous ne connaissiez pas, et vous vouliez voir les brumes, et vous lui avez dit « j'arrive fin août », et elle vous a dit « ah ben ouais, mais mon vieux, elles seront parties, les brumes, elles seront dissipées, il faut venir un peu plus tôt ». Et que ça n'était pas si facile de changer le voyage et tout, parce que pour aller à Saint-Pierre, c'est compliqué en fait.
C'est compliqué parce qu'on était en pleine période Covid, c'est compliqué parce que c'était une île qui était très préservée et qui avait l'immunité collective, donc il faisait très attention. C'était compliqué parce qu'il fallait passer par Montréal et qu'il fallait avoir des autorisations, etc. Donc on y est arrivé, les éditions Michel Lafon ont mis une équipe entière dessus pour me permettre de partir au bon moment, et je les en remercierai. Ouais, je les en remercierai jamais assez. Et donc me voilà à Saint-Pierre. Et quand j'arrive, je me rappelle quand même que dans deux de mes bouquins, Saint-Pierre-et-Miquelon, vu que personne ne sait où le placer sur une carte et qu'on se plante d'une centaine de kilomètres, voire d'hémisphères, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans mes romans, c'était une punition. À deux reprises, dans deux romans différents, il y a un des personnages qui s'entend dire « si tu continues tes conneries, tu vas terminer,
tu seras muté
à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Et ça, ils détestent là-bas.
Oh, ils ne sont pas très très fans, non. Ils ne sont pas très très fans et ils me l'ont fait comprendre. Mais quand je suis arrivé, j'ai en fait trouvé une île magnifique, une île sublime. Et je comprends en fait pourquoi on en parle peu. Je comprends pourquoi une grande partie de l'année c'est couvert par la neige et une autre partie de l'année c'est couvert par les brumes. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des millions de touristes qui débarquent et que cette île, elle est protégée. Et les Saint-Pierrais sont vraiment et les Saint-Pierrais sont ultra, ultra accueillants. Il faut juste leur montrer qu'on n'est pas là pour prendre, mais qu'on est là pour apprendre. Et puis, il ne faut pas trop les énerver, parce que je vous rappelle que l'ADN du Saint-Pierrais, c'est un quart de Normand, un quart de Basque, un quart d'Irlandais et un quart de Breton. Donc voilà, ça ne s'ennuie pas trop, un Saint-Pierrais, mais une fois que vous avez gratté la surface et qu'ils vous ouvrent les portes de chez eux, alors tout change. Un peu comme cette île qu'il faut gagner, il n'y a pas de tour opérateur là-bas, vous prenez votre sac à dos et vous la découvrez. Ce n'est pas une île comme ça qu'on vous offre, c'est une île qu'on gagne.
Alors Valentine Imhoff, c'est une écrivaine qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a publié d'ailleurs récemment Le Blues des Phalènes,
oui,
aux éditions du Rouergue. Elle est en France en ce moment, elle fait la tournée des festivals et tout, mais elle va repartir sur son île. Ça vous a donné envie d'y retourner? Vous êtes un peu jaloux de la tranquillité de Valentine Imhoff?
Alors, mes parents habitent dans un petit village qui s'appelle Aubin, dans l'Aveyron. On a une petite maison sur une colline. Et j'ai aussi cette solitude, cet isolement quand je le souhaite. Mais c'est vrai que...
ouais, c'est pas la même quand même.
Alors, c'est pas la même parce qu'effectivement, quand j'ouvre les fenêtres de notre maison, je n'y vois pas de baleines, je n'y vois pas d'aurore boréale, je n'y vois pas de dauphins. C'est incroyable. C'est un territoire français, mais qui a la richesse et les mystères et les surprises d'un pays au bout du monde qu'on ne connaîtrait pas. La nature boréale est incroyable. Et les décors sont des décors que j'ai eu tellement, tellement, tellement de mal à retranscrire, tellement ils étaient beaux. Qu'est-ce qu'on fait face au superbe, juste avec des mots? Bah, c'est compliqué.
Et il y a 6 pages de remerciements.
Toujours.
Toujours dans la gratitude. Il faut vraiment qu'on parte visiter la bibliothèque de Bernard Minier maintenant. Mais simplement, c'est quoi ce calepin en 2 secondes? Vous avez un calepin rempli avec des petites lignes et tout.
J'ai un esprit en escalier et donc je me paume très rapidement. Et dès que vous parlez, j'ai des idées. Quand je parle, j'ai des idées. Et je me dis, ce serait bien que tu dises ça, mais je vais l'oublier dans les 3 secondes qui suivent parce que je serai déjà sur un autre escalier. Donc je passe tout le temps, mon temps à écrire quand je discute avec quelqu'un.
Et il y a des idées de romans aussi dedans?
Oh, ça oui, alors ça déjà c'est le carnet qui m'a amené à Saint-Pierre. Alors déjà c'est le carnet siglé Direction Régionale de la Police Judiciaire du 36, dont j'en suis pas peu fier. À l'intérieur, il y a les cartes de visite de tous les gens que j'ai rencontrés et que je remercie. Et puis il y a toute l'architecture
Il y a
mon roman,
il y a des plans, du rouge, du bleu,
ouais,
du noir.
Il y a du murder board, il y a toutes les rencontres. Et toutes ces rencontres, elles sont capitales. Sans ces rencontres, moi j'écris pas de roman, il est donc... tout à fait normal de remercier tous ces gens à la fin du roman et même de les utiliser comme personnages dans le roman.
Et bien justement, nouvelle rencontre dans un instant avec Bernard Minier.
Europe 1.
Et il en est un autre de polar qui sort en ce moment, celui de Bernard Minier, Lucia. C'est chez Ixo, c'était l'occasion d'aller voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison, à une heure et demie de Paris.
Oui, on ne va pas donner l'adresse exacte, non. Peut-être.
Non, sinon il va y avoir encore une file d'attente comme dans les salons pour faire signer les livres. Ça ne va pas être pratique pour les voisins. Ça va être bien parce que dès qu'on rentre, il y a une sorte de montagne de livres chez vous. Mmh. Mais c'est une montagne un peu écroulée parce qu'il y en a comme ça perchés sur des étagères et puis d'autres, beaucoup, beaucoup de livres qui sont par terre. Comment on appelle ça, où on voit la couverture, en fait, ils sont juste posés par terre,
oui.
Partout. Pourquoi, c'est quoi cette méthode de rangement? C'est très étrange.
Ben non, au fond, ça permet au premier coup d'œil de trouver ce qu'on cherche finalement. C'est de,
oui, mais
de l'ordre dans le désordre.
Lesquels vous choisissez pour les mettre, lesquels ont le droit d'être par terre et lesquels sont sur la tranche dans une étagère?
Alors, il y a beaucoup de revues par terre. Hein. On voit là, il y a Lire, il y a Philosophie, il y a Métal.
Il y a des Tintins.
La réédition de Métal Hurlant, le numéro 2, avec ses génies absolus qui étaient Druillet, Moebius et compagnie. Là, il y a la revue Alibi aussi. Voilà, c'est plutôt les revues qui sont. Il y a ça aussi. Voilà, Philosophie Magazine sur le mal, la revue Fantasque, La Tentation du Mal, on y revient.
Oui, bon, oui.
Donc, en fait, ce qui est à plat comme ça, c'est plutôt les revues qu'autre chose.
Il y a évidemment, on n'est pas déçu, un tropisme. Pour le mal et les démons et tout ce qui fait peur.
Ouais, les têtes de mort. Ouais.
C'est une maison très ouverte et il y a un bureau, il y a un salon, il y a une petite salle à manger comme ça et on peut faire le tour et on voit qu'il y a des livres un peu partout, sans doute différents types de livres, on va y venir, mais juste avant, là on est en fait à côté de votre table de la salle à manger. Il y a un petit.
Ouais, enfin, salle à manger, c'est vite dit, vu qu'il y a plein de bouquins dessus. Donc, autant dire qu'on n'y mange pas souvent.
Il y a un monsieur tout recroquevillé, une statue.
Oui, ouais, c'est marrant. J'avais trouvé ça dans une boutique du coup, dans le Marais. C'est un peu le penseur de Rodin, mais très abattu, quoi, très déprimé. Hein,
bien recroquevillé sur lui-même.
Et en même temps, je trouve ça assez magnifique. C'est surtout la finesse des mains, des pieds, enfin, le souci du détail.
Et alors, il y a un meuble sur lequel il y a une sorte d'hôtel de l'horreur. Avec exactement. Edgar Poe, histoire extraordinaire, Dracula, il y a même deux crânes.
Vous m'avez dit. Il y en a un tout petit là.
Ah oui, il y en a un tout petit. Vous m'avez dit avant d'allumer les micros que c'était le décor pour les zooms et tout ça.
Oui, en fait, c'est là où souvent
que les gens ne soient pas déçus.
Je me filme. Alors, la tapisserie est quand même nettement plus light. C'est Vénus et Cupidon, c'est une tapisserie du 18e. Mais oui, on a Edgar Poe avec les histoires extraordinaires, on a Dracula, on a. Le dernier manga de Hugo Tanabe inspiré de Lovecraft, on a Lovecraft lui-même.
La Divine Comédie.
On a la Divine Comédie illustrée par Gustave Doré. On a un buste assez mystérieux. Hein, voilà. Alors, il pèse une tonne, ce truc-là. Il faut savoir que c'est très, très lourd. On a des insectes sous verre. Et puis, on a aussi quand même un auteur, moi, que je connais depuis très longtemps et qui est peut-être, avec Lovecraft, celui qui m'a initié à la peur, puisque le thriller... comme son nom l'indique, c'est quand même aussi beaucoup sur la peur et le frisson, c'est Jean Rey, immense auteur belge.
Jean Rey, R-A-Y.
C'est immense auteur belge, auteur de Malpertuis, qui est sans doute un des grands chefs-d'œuvre de la littérature fantastique.
Et vous nous racontez
assez méconnu, ouais.
Vous nous racontez Malpertuis, vous nous faites un peu peur.
Ah ben Malpertuis, c'est une maison, c'est le nom d'une maison qui se trouve dans une ville assez antique, une ville belge ou les Pays-Bas, dans un port mystérieux. Et cette maison, en fait, elle contient une famille. Et l'oncle Kassav va mourir. L'oncle Kassav, c'était le chef de la famille, de la maisonnée. Et donc, tout le monde s'est réuni autour de lui. Et en fait, on va s'apercevoir que cette famille, en fait, ce sont les anciens dieux antiques, les dieux grecs, qui survivent. Et pourquoi survivent-ils? Parce que comme leur religion a périclité, ils sont devenus des espèces d'êtres phallos qui n'ont plus que l'ombre de la puissance qu'ils avaient, mais néanmoins ils restent redoutables et en plus ils se jalousent, ils se disputent. C'est un peu Dallas au pays des dieux antiques dans une ville antique. C'est merveilleux. Malpertuis, c'est un chef-d'œuvre.
Et alors, juste à côté, sur la petite table, il y a des ouvrages assez pointus. Il y a les Métamorphoses d'Ovide et puis il y a un cours familier de philosophie politique. Et puis, il y a un véritable naturalisme littéraire, est-il possible ou même souhaitable? C'est un petit livre, une rencontre entre Jonathan Coe et Will Self.
Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup lu de littérature anglaise à une certaine époque.
Oui, mais là, c'est même carrément de l'analyse littéraire, quoi.
C'est une question intéressante.
Tout habileté, d'ailleurs, le petit
livre. Oui, ça prouve bien que je l'ai lu. C'est une question intéressante. Un véritable naturalisme est-il souhaitable? Moi, j'écris un genre de fiction réaliste. C'est comme ça que je le définis toujours. Et dans cette formule, les deux mots sont aussi importants que l'un que l'autre. Fiction, donc mensonge, invention, imagination et réaliste. Et pour moi, le mot réalisme est extrêmement important. Donc, du réalisme au naturalisme, il n'y a pas loin. Voilà, c'est une question qui m'a toujours intéressé.
Et c'est quoi, en fait, cette table? Vous travaillez dessus?
Non, en fait, c'est pas vraiment une salle à manger, puisqu'en fait, tous les espaces sont ouverts ici. Comme on a vu, il y a plusieurs niveaux dans la maison. Donc, on monte quelques marches, on est dans la cuisine. On en descend quelques-unes, on est dans un bureau. On va par là, on descend aussi, on est dans le salon. Donc, tout communique, tout circule. Et comme c'est le chemin le plus direct, en quelque sorte, entre l'entrée, le salon et la cuisine, c'est par là que je passe le plus souvent. Et ça me permet. D'ailleurs, très souvent, je cours. Je marche pas, je cours. J'aime bien. Et comme je passe souvent par là, et ben, je dépose là tout ce qui me. Voilà.
Je marche pas, je cours. Il faut quand même que je signale pour les auditeurs qu'il y a du sport aussi partout. C'est-à-dire qu'il y a des gants de boxe qui traînent. Il y a des poids à lever, des petits, des grands, des haltères.
Que vous avez d'ailleurs.
Oui, j'ai soulevé l'haltère tout à l'heure.
Vous-même pour voir un peu ce que
c'est. Avec succès.
Avec succès, oui. Ben, on verra demain l'état des lombaires.
Je ne sais même pas par où commencer. Il y a des ouvrages très pointus, Gombrowicz, Hermann Brock, Mandiargues, il y a Proust, bien sûr.
Ah ben celui-là, le Proust, la recherche du temps perdu, qui est une magnifique édition chez Quarto, chez Gallimard. On vient juste de me l'offrir. J'ai fait une signature dans une librairie il y a 3 jours. On m'a offert ça. Donc voilà.
Le problème, c'est que c'est un peu lourd, quoi.
Ouais.
Il y a toute la recherche en un seul livre.
C'est ça, 2000 et quelques pages.
Mais cela dit, pour vous, ça va, comme vous êtes costaud.
Enfin, je ne me sers pas des livres pour faire ma gym non plus.
Mais alors donc, il y a plein d'ouvrages très pointus.
Ouais,
et là, je vois une édition originale du Da Vinci Code.
Un vieux truc, ouais. Mais tu as remarqué qu'elle est au sol. Hein. Donc Voilà, c'est un truc qui... Je sais pas de quelle année ça date. Mais il y a des bouquins partout, puis je les range pas tout
le temps. Ça vous a plu à l'époque ?
Moyennement, mais j'essaie.
Parce que ça a été quelque chose quand même. J'ai essayé un tournant, ce livre.
Ouais, bah en fait, je suis comme tout le monde. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça avait, ça avait autant marché. J'ai essayé de comprendre. Et je pense qu'il y a, plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que c'est facile à lire. Ça se lit très vite et très facilement. Et puis il y avait ce côté énigme, jeu de piste, je pense, qui était à l'origine du truc. Après, je préfère Le Nom de la Rose que Le Da Vinci Code. On est d'accord. Et tu remarqueras qu'il y a aussi des bandes dessinées. Hein.
Ouais, alors il y a une grosse BD là. Alors, il faut qu'on en parle parce qu'elle est magnifique. Eerie and Creepy de Richard Corben.
Ouais.
C'est en noir et blanc, des dessins.
C'est sublime.
Je ne sais pas comment dire. Ça fait un peu penser à Krebs.
Ouais, c'est ça.
Mais en version horrifique.
C'est un peu expressionniste, en fait.
C'est des histoires d'horreur encore.
C'est entre la BD et la peinture par moment. Et c'est que des histoires d'horreur. Ouais, c'est que des nouvelles, des sorties. En fait, c'est un recueil de nouvelles des revues Eerie et Creepy, revues mythiques. Aux États-Unis, mais c'est des nouvelles remarquablement écrites. Les scénaristes changent et le dessinateur est toujours le même, c'est Richard Corben, qui est un génie graphique. Mais ces histoires-là, en trois pages, ils te racontent une histoire, comme dans une nouvelle, et avec une chute très souvent abominable, sombre. Mais c'est en même temps d'une justesse sur la nature humaine, c'est terrible.
Mais bon, il y a des choses très souriantes et on va y venir, mais c'est vrai que vous êtes quand même cerné par les livres. Il y a Lovecraft. Il y a des monstres partout. Quoi.
Ouais, il y a des masques étranges, un peu steampunk, ouais. Très bizarres.
Alors, juste en face, il y a un paysage un peu provençal, une peinture très lumineuse.
C'est très provençal, c'est le golfe de Saint-Tropez, donc tu vois. Qui un grand, grand tableau.
Mais quand même, cette noirceur et tout, jamais vous la mettez de côté, quoi. Ça vous.
Bah, comme je l'ai dit, c'est à la fois ma maison et mon bureau. C'est là où je travaille aussi. Donc. Moi, j'aime bien, dès que je regarde quelque part, avoir l'œil stimulé, l'esprit stimulé à chaque coup d'œil que je peux donner à cette maison. Je veux dire, si c'était des murs blancs et si j'avais des meubles Ikea, je serais sans doute moins inspiré, quoi. Donc là, non, il y a pas mal de choses anciennes, de choses... c'est un peu un cabinet de curiosité.
Et justement, un vieux magazine de science-fiction, Science-Fiction Magazine, ouais. 8 francs, numéro 2.
Ça, c'est vieux.
C'est quoi ?
C'était quand j'étais ado, ils avaient sorti ça. Ils n'en ont fait qu'une dizaine de numéros. Et ça se dépliait comme un journal.
Ah oui, comme le journal Le 1.
Et c'est avec des choses magnifiques. Et tu avais des gens comme Curval, Michel Jury, Moebius de nouveau. Et tu avais des nouvelles et tu avais des illustrations en même temps. Et tu avais ils te proposaient tout ce qui paraissait à l'époque dans des collections comme Le Masque Science-Fiction et d'autres. Et voilà, ça, c'est une nouvelle de Curval. Je sais pas quelle année ça date, ça.
Mais ouais, il y avait des nouvelles
marquées quelque part.
C'est bizarre qu'il n'y en ait plus.
Mais ça n'a pas duré très longtemps, ce magazine. Apparemment, il marchait moyennement. Je crois qu'ils ont fait une dizaine de numéros, il a disparu. Mais moi, quand j'ai découvert ça, bon, au fond, ça a été une de mes portes d'entrée à la science-fiction. Et on verra qu'à l'étage, il y a pas mal de SF aussi. Donc, voilà, je ne sais plus quelle année c'est. Mais il y avait des
en noir et blanc.
Bah, on voit bien que c'était d'une impression.
Ouais, ça fait très vintage, quoi.
Ah mais c'est complètement, c'est d'époque.
Et alors on arrive dans le bureau qui est juste à côté. Donc il y a un bureau très simple avec des tréteaux, une planche,
ouais.
Un ordinateur fixe, et puis derrière une bibliothèque qui a l'air d'être une bibliothèque un peu plus de travail. Il y a quelques maîtres comme Stephen King, et il y a des ouvrages de police scientifique.
Ouais, exactement. Il y en a quelques-uns. Ouais. Il y a, c'est ici, c'est un peu le.
Vous piochez dedans régulièrement ?
Ouais. Il y a quelques ouvrages dont je me sers. Celui-là, par exemple, Police scientifique de Benoît Admaillard et Sébastien Aguilar chez Hachette, c'est le bouquin de référence, quoi. Tout le monde s'en sert, en fait.
Mais c'est un manuel pour les pros ou c'est un truc pour tout le monde ?
Non, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a...
Ah ouais, les pages sont cornées partout.
Oui, bien sûr. Il y a du jaune partout, du stabilo partout. Voilà, c'est la morpho-analyse des traces de sang.
C'est d'expert, ça.
Quelles sont les différentes traces de sang ? Les traces de sang passives, les traces de sang transférées,
les traces
de sang
projetées.
Bien sûr. Voilà.
Oh mon Dieu.
Et là, alors,
donc là, c'est la bibliothèque Stephen King.
Ouais, il y a tout. Ouais,
il y a toute la collecte.
Ouais, il y en a pas mal. Il y en a au-dessus aussi. Hein.
Et alors, s'il faut en choisir un,
ouf, difficile. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai une petite faiblesse pour les
pour les romans de Stephen King où il met en scène des écrivains, forcément.
Ah oui, Misery.
Et il l'a fait souvent. Misery, Sagdos aussi, qui est un merveilleux roman également. Sagdos, La part des ténèbres, Misery. Voilà, j'aime bien quand il met en scène des écrivains.
Mais Misery, c'est l'histoire d'un écrivain à succès. Et il a un accident de voiture. Il est récupéré par une femme. Il se réveille, il a la jambe cassée, ça ne va pas du tout. Et en fait, c'est une fan qui l'a récupéré, qui l'a mis dans son sous-sol, dans un lit. Et qui en fait le refuse qu'il parte tant qu'il n'aura pas ressuscité l'héroïne qu'elle adorait et qu'il a fini par tuer en fait parce qu'il voulait plus écrire ces romans-là.
Exactement. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas prêt de tuer Servaz parce que j'ai pas envie de finir comme Paul Sheldon, l'écrivain de Misery.
Paul Sheldon. Et il y a un broyeur à papier juste à côté.
Ouais. Donc c'était une idée un peu fantasque que j'ai eu au moment dernier, mais je m'en sers pas en fait. Il y a tellement de.
Mais c'était pourquoi au départ ?
Bah c'était pour faire disparaître mes manuscrits quoi. En fait, pour pas plutôt de les mettre à la poubelle. Alors maintenant je laisse tomber. J'attends que le livre paraisse et une fois qu'il est paru. Je mets les manuscrits à la poubelle, ça n'intéresse plus personne une fois que le livre est paru.
Ah, mais ça, donc, c'est que du Lucia ?
Ah non, là, je pense qu'il y a deux. J'ai pris un peu de retard, là, parce que vu la pile, je pense qu'il y a,
ouais,
deux...
non, parce que, ouais,
il y a au moins deux romans, là, deux ou trois.
Il y a 80 cm de haut, ouais, de deux piles de papier, quoi,
ouais,
non, bien serré.
Oui, oui, donc je pense qu'il y a deux ou trois romans, là. Oui, j'ai pris un peu de retard dans les. Il va falloir que je me débarrasse de tout ça.
Bah justement, on va dans le vrai bureau, alors, dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine ?
Parce que c'est une des plus grandes pièces de la maison. Elle est très lumineuse. Et puis, il y a cette immense table au milieu. Enfin, immense, assez grande quand même. On pourrait manger, déjeuner ou dîner à une dizaine de personnes. Et donc, en fait, cette table, moi, je la trouve extrêmement pratique pour travailler.
Il y a le café à proximité. Il y a la cafetière.
Il y a la cafetière à proximité.
Alors, il faut que je décrive parce que là, c'est assez intéressant. Donc, il y a le... On est d'un côté de la table où on voit toute la table qui s'étale comme ça avec plein de livres. Et puis, sur toute la première partie, il y a plein de livres de fiction russe, Dostoïevski, Gogol, Solzhenitsyn. Et puis, il y a, comme dessiné par les livres, un petit carré d'espace de travail, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'écriture, la littérature russe ici ?
Ouais, il y a aussi Vers la fin du mythe russe avec de Georges Niva. Georges Niva qui est un grand spécialiste de la Russie, de la littérature russe. En fait, après une discussion, j'ai écrit une tribune dans l'Obs, qui est en ligne depuis peu, et sur le rapport entre les grands écrivains russes, la censure et l'Occident. Où je voulais montrer que la censure déjà en Russie a toujours existé, c'est pas un phénomène nouveau depuis Pouchkine, hein. Même Pouchkine a été exilé et je voulais aussi montrer que contrairement à ce que prétend Poutine qui regarde vers l'Asie et l'Eurasie, les écrivains russes ont toujours regardé vers l'Ouest, que ce soit pour s'en inspirer ou pour rejeter, hein, puisqu'il y a toujours, il y a cette vieille querelle entre les slavophiles et les occidentalistes qui date de Turgenev et Dostoïevski voire avant et qui a perduré. J'ai eu une discussion et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une tribune là-dessus ? C'est, voilà.
Mais ça vient d'où, cet amour de la littérature russe ?
Je lis depuis tellement longtemps, j'ai quand même passé la soixantaine. Donc, je suis un gros lecteur et j'ai lu aussi bien la littérature russe que l'allemande, que l'espagnole, que l'anglaise. On parlait de Will Self tout à l'heure. J'ai une passion dévorante pour la littérature en général. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup d'autres choses que du thriller. En fait, je lis quelques thrillers de temps en temps, mais j'en lis pas énormément. Même si il y a des choses très remarquables qui sont faites dans le genre.
Et même Dostoïevski, ça peut se rapprocher parfois du...
Écrit mes châtiments, avec le titre déjà. Bien sûr.
Parce que là, il y a tout. Il y a les démons, il y a Crime et Châtiment, il y a Anna Karenine Tolstoï, il y a Gorky, il y a Turgenev, il y a Solzhenitsyn, il y a Gogol, ouais. Nicolas Gogol, qu'on oublie beaucoup.
Et qui est très, très important. Nouvelliste. Qui est très important.
Vous en parlez, ce côté
Gogol, c'est quand même...
absurde à la russe.
C'est un peu le pendant russe de Kafka. Gogol, c'est quand même celui qui a fondé le russe moderne, la langue russe moderne, celle du roman moderne. Ça apparaît surtout avec Gogol. C'est un des premiers prosateurs. Faut pas oublier qu'au départ, avec Pouchkine, etc., c'était du roman en vers. C'était du roman... Et la prose, ça apparaît un peu tardivement en Russie. Le roman en prose, ça apparaît un peu tardivement en Russie. C'est-à-dire, il est postérieur. Et justement, ça apparaît parce que des gens comme Turgenev regardent vers ce qui se passe à l'Ouest. Et donc, on a, nous, aujourd'hui, toute la littérature occidentale à un énorme tribut, doit un énorme tribut à la littérature russe. Il n'y aurait pas la littérature occidentale telle qu'elle a été au XXe siècle, au XXIe, n'aurait pas existé sans le grand roman russe. Mais le grand roman russe n'aurait pas existé sans la littérature occidentale. Il ne faut pas non plus l'oublier.
Oui, c'est assez beau, en fait, cet échange. Quoi.
Voilà, exactement. Et puis, oui, je voulais dire, puisque tu me parles de Anna Karenine Tolstoï, en fait, et justement, puisque je viens de publier, alors toute proportion gardée, évidemment, un roman où, pour une fois, le personnage principal est une héroïne, il ne faut pas oublier qu'à la fin du XIXe siècle, tu as trois romans qui, en quelque sorte, font de la forme romanesque moderne. C'est Madame Bovary pour la France, c'est Anna Karenine pour la Russie et c'est Éphibériste pour l'Allemagne. Et ces trois romans, c'est trois portraits de femmes écrits par des hommes.
Et alors je lis quand même pour le plaisir l'incipit célèbre d'Anna Karenine. Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse au contraire l'est à sa façon. Pas mal. Et je vous laisse méditer là-dessus. Il ne faut pas qu'on traîne parce que là-haut, il y a de la science-fiction. J'aimerais bien qu'on puisse en parler. Ah, il y a le livre de Laurent Mariotte, là, sur la cuisine. Oui. 365 jours.
J'ai enregistré la table du dimanche il y a 3-4 jours. Et en fait, il m'a offert ce livre qui est formidable, ce livre. Il y a une recette par jour. Et surtout, ce qui est intéressant dans le livre de Laurent Mariotte, c'est qu'au début de chaque mois, il t'indique les produits de saison, les fruits, les légumes, les poissons. C'est vraiment un super livre pour ceux qui ont le bec fin.
Alors là, on arrive, on a monté un étage, on arrive dans une sorte de vestibule, enfin de pièce, en fait, qui distribue les autres pièces.
C'est ça.
Il y a une grande bibliothèque, mais quand même au centre, il y a cette machine de torture. Ouais. Donc un grand machin de 2,50 m de haut.
Oui.
Avec des accoudoirs et on ne sait pas bien comment s'en servir.
Ah si, moi je sais très bien comment m'en servir.
Moi non. Oui.
En fait, là tu suspends, c'est pour faire des tractions, cette espèce de potence, c'est ça, les accoudoirs comme tu dis. Alors je ne peux pas le faire parce que j'ai le micro, mais tu te mets les avant-bras ici sur les accoudoirs, tu tiens cette partie-là et tu fais ce qu'on appelle tu travailles tes triceps, quoi. Ce qu'on appelle les dips, c'est-à-dire les flexions des bras pour travailler les muscles arrière. Donc moi je suis équipé, t'inquiète pas. Et je m'entretiens, écoute.
Mais toujours à côté des livres. Alors là, c'est que science-fiction, j'ai l'impression.
C'est le rayon de la science-fiction. Ouais. Alors, et tu as tous les classiques. Tu as Asimov, évidemment. Tu as Spinrad.
Asimov, c'est le grand inventeur de la science-fiction, des robots, etc. Oui. iRobot, c'était lui, par exemple.
Ouais,
il a tout créé sur les robots, en fait.
Oui, c'est lui qui avait énoncé les trois lois de la robotique. Et tu as K. Dick, évidemment, un immense auteur qui a inspiré aussi bien Blade Runner que Minority Report que Total Recall, qui est un génie absolu. Tu as la réédition de Dune chez Robert Laffont, dont je précise qui est un magnifique ouvrage cartonné, et avec une préface de Pierre Bordage, je crois. Et je précise qu'ils vont faire la même chose avec Hyperion, qui est un de mes romans préférés de science-fiction, Dan Simmons. Et c'est Bibi qui va faire la préface, donc je suis assez content.
Bah ouais, c'est du travail, mais c'est quand même... C'est incroyable de préfacer une version un peu ultime comme ça, très chiadée, avec une nouvelle traduction, une très très belle couverture, et d'être dans la préface, d'être en compagnonnage avec l'auteur, c'est
beau. Tu penses bien que quand on me l'a proposé, j'ai pas refusé. C'est une telle chance de... je me suis lâché, je crois que la préface fait 40 pages quand même. Donc il y a tellement à dire sur Hyperion et sur Dan Simmons que le sujet est presque inépuisable. Puis tu as aussi ça, Silverberg. C'était paru il y a quelques années, c'est chez Flammarion, en trois volumes. C'est les nouvelles Silverberg. Silverberg, je trouve, c'est un des auteurs les plus sous-estimés de la SF des années 70. Et ses nouvelles sont remarquables.
Hyperion, en deux mots, Dan Simmons.
Alors, Hyperion, c'est sorti au début des années 90, je crois, ou à la fin des années 80. C'est presque un roman total de science-fiction, parce que tu as tous les genres de la science-fiction qui sont dedans, le space opéra, le cyberpunk, à la William Gibson. C'est l'histoire d'une poignée de pèlerins qui sont envoyés sur une planète pour aller, parce qu'on a découvert que les tombeaux du temps vont s'ouvrir. La planète s'appelle Hyperion. Évidemment, la référence à Keats est évidente. Il y a plein de références littéraires dans Hyperion, c'est ça qui est formidable. Et ces pèlerins, c'est un peu comme dans le Décaméron ou dans le livre de Chaucer avec ces pèlerins-là également. C'est-à-dire que chacun va raconter son propre récit. Parce que tous se demandent pourquoi on les a choisis, eux. Et ils vont à la rencontre d'une créature qui est une des créatures maléfiques les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature, pour moi, qui est la quintessence du mal, qui s'appelle le Gritch, le seigneur des épines, et dont on sait qu'évidemment toute rencontre avec ce seigneur des épines est non seulement fatale, mais promet des siècles et des siècles de souffrance. Et ils vont tous à la rencontre de ce Gritch, en quelque sorte en expiation ou en victime expiatoire, et tout l'ont croisé à un moment donné. Et donc tu as le récit du guerrier, le récit du prêtre, le récit du philosophe, le récit du poète, et tous ces récits sont différents, et tous ces récits font référence à une sous-catégorie de la science-fiction. C'est magnifique, Hyperion.
Alors c'est très intéressant, peut-être il y a une signification, on va voir, mais il y a au milieu de toute cette science-fiction un peu pointue, il y a je dis ça, il y a au moins 150 bouquins de science-fiction là. Mais au milieu, il y a Introduction à la psychanalyse de Freud et un ouvrage de Jung.
Oui.
L'autre psychanalyste.
Mais parce qu'en fait, oui.
Qu'est-ce que, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a, c'est votre maman qui vous les a offerts?
Non, du tout. Non, ça n'a aucun rapport avec la science-fiction. C'est juste que, juste en dessous, j'ai à un moment donné, faute de place, je suis obligé un peu de mélanger les choses. Donc en dessous, il y a pas mal d'ouvrages, soit scientifiques, soit pseudo-scientifiques avec la psychanalyse. Et bon, le fait que le Jung se retrouve au milieu de la SF, c'est juste une erreur de classement, je veux dire.
Et encore, il y a une forme de fantastique chez Jung qui parle de la synchronicité, des coïncidences incroyables et du sens qu'on en donne. Là, c'est un livre sur l'âme, par exemple.
Oui, et puis l'inconscient collectif, d'où les archétypes. Les archétypes, ils nourrissent aussi la science-fiction à l'année pleine, en fait.
Et les romanciers. Pour ça que tu compulses des ouvrages de psychanalyse aussi, ça sert pour la psychologie des personnages.
Je suis curieux de tout, en fait. Et je pense qu'il faut être curieux de tout quand on écrit. L'imagination, elle ne sort pas de nulle part. Il faut bien la nourrir. Il faut bien qu'elle vienne de... Voilà. Et moi, au fond, je pense que ce qui nourrit l'imagination, c'est la curiosité. Sans curiosité, on ne peut pas avoir d'imagination.
Eh bien, merci d'avoir assouvi notre curiosité pour cette magnifique maison bibliothèque. Merci beaucoup, Bernard.
Merci d'être venu jusqu'à moi.
Retour à Europe 1, Lucia, c'est le nouveau roman de Bernard Minier. Vous êtes comme Bernard Minier, Olivier Norek, vous avez tout un tas de lectures différentes, de la science-fiction au classique, en passant par le polar, ou alors vous êtes centré polar, c'est quoi vos lectures? Bibliothèque, en fait.
Être centré polar, ce serait être un peu monomaniaque, parce que j'ai été flic pendant 18 ans et maintenant je lirais que des romans policiers, déjà qu'en plus j'en écris. Ce serait une vie un peu monocorde.
Vous remerciez Raymond Chandler,
ouais.
Grand écrivain de polar américain.
Oui. Je lis de tout parce que je ne lis pas sur un sujet et je ne lis pas sur une matière. Moi, je lis une plume. C'est-à-dire que si c'est une plume historique, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est la plume que je suis. Donc ça va être Ken Follett, par exemple, pour Les Piliers de la Terre, mais j'en ai vraiment pas grand-chose à faire, moi, de la construction des cathédrales sur 4 générations. Mais la plume fait que je suis prisonnier. Ça va être John Irving, ça va être Fred Vargas, ça va être Barjavel.
Daniel Pennac. Vous remerciez Daniel Pennac aussi à la fin du roman. Daniel Pennac, en général, écrivez.
Daniel Pennac a fait tellement pour la littérature et tellement pour... dire aux gens ce qu'est le plaisir de lecture et aussi être rassuré quand on se dit ce livre est pas pour moi, ce livre est trop compliqué. Vraiment, Daniel Pennac, c'est pas de la vulgarisation, mais c'est comme si quelqu'un vous disait bienvenue devant une gigantesque librairie. Voilà, c'est ça Daniel Pennac pour moi. Donc voilà, plutôt une plume. Et je citais enfin Barjavel. Et Barjavel, j'ai une anecdote incroyable avec Barjavel parce que c'est presque un signe. Quelques semaines avant de partir à Saint-Pierre, je lisais La Nuit des Temps. Et donc, c'est la découverte du corps d'une jeune femme dans les glaces qui remonte à 900 000 ans. On va réaliser qu'il y avait une civilisation avant, les Gondas et les Enissors, qui se sont battus, une sorte de truc atomique qui a rasé la planète. Évidemment, il y a 900 000 ans, les continents n'étaient pas au même endroit. Mais si on regarde les informations que donne Barjavel, si on regarde latitude et longitude, etc., eh bien, le combat final se passe exactement à Saint-Pierre. Et donc, écoutant ce signe, j'ai pris mon sac à dos et j'ai foncé.
Incroyable. On trouvera sans doute du Barjavel chez Sandrine Babu dans sa librairie L'Instant. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Trois romans aujourd'hui. Alors, on a une française, on a un britannique, mais qui parle de l'Allemagne, et un américain cultissime. Et c'est un roman que j'adore, on va en parler tout à l'heure. On commence par quoi ?
Alors, on va commencer par Milan Amous, en fait, qui est française, mais d'origine algérienne. Amour extérieur nuit, c'est chez Dalva, une maison d'édition que j'aime bien. c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse au travail. Bon, souvent, les romans qui se passent au monde du travail, ce n'est pas les plus passionnants, mais là, ce n'est pas le cas, c'est très réussi. Donc, elle tombe amoureuse d'un de ses collègues de travail qui se trouve être marié. Elle est à Alger, lui est à Paris, donc on sent que la relation peut ne pas avoir beaucoup d'avenir. Mais en fait,
c'est mal barré. Ouais.
C'est mal barré. Mais ce mal barré donne un roman profondément tendre, touchant. Donc on voit un peu les émois amoureux, l'apprentissage amoureux de cette jeune femme, mais aussi Alger, qui est un personnage principal aussi du roman. Alger, à la fois belle, mystérieuse et un peu menaçante pour les femmes et pour les jeunes femmes en particulier. Donc un roman tendre, extrêmement bien écrit, très subtil, dans lequel on se laisse glisser, on n'a pas envie que ça se termine. Évidemment, je ne dévoile pas la fin. C'est une très belle histoire d'amour, même si c'est une histoire adultère.
Et c'est un roman court en plus, 200 pages, quoi, quelque chose
ouais,
comme 200,
ça. Ouais, 230.
Amour extérieur nuit, Mina Namous, c'est chez Dalva. Ensuite.
Alors ensuite, Revenir à Berlin, de Jonathan Lichtenstein, qui en fait est anglais, comme son nom ne l'indique pas forcément. Revenir à Berlin, donc, est sous-titré Sur les traces de mon père, ce qui veut tout dire. Donc c'est un récit romancé. Il va nous parler de son père, qui a 80 ans, qui est un des enfants qui ont pu fuir l'Allemagne à la fin des années 30, dans ce qu'on appelait les Kindertransport, qui ont pu faire échapper pas mal d'enfants juifs à l'époque. Donc cet homme a eu évidemment un début de vie difficile. Il a fait sa vie en Angleterre, il a eu 4 enfants, ou 5. Et donc c'était un père extrêmement mutique, extrêmement dur, autoritaire, avec lequel donc son fils, l'auteur du livre, a eu beaucoup de mal à communiquer. Et donc quand son père a 80 ans, ils partent tous les deux pour un voyage à Berlin, pour revivre les premières années donc de Hans, et on voit entre eux comment la communication va se renouer, des liens vont se réinstaurer, donc c'est à la fois dur, magnifique, c'est un livre incroyable.
Revenir à Berlin sur les traces de mon père, chez Lattès, Jonathan Lichtenstein. Ensuite, alors livre culte, roman culte, mais il faut me dire pourquoi vous l'avez choisi.
Voilà, alors en fait, Lonesome Dove de Larry McMurtry, c'est un livre moi, qu'on me conseille depuis des années. C'est un western. Alors moi, j'adore les westerns, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais pas tentée par des westerns en livre. Et je me suis plongée dedans il y a un an. Et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer la série. Parce qu'en fait, il y a Lonesome Dove 1, 2. Il y a 3 livres avant et il y en a un après. Donc, préquel et la suite. Donc là, on est au Texas. On est avec 2 ex-rangers, donc Gus et Cole. Il y a plein de personnages extrêmement attachants. L'écriture, ça glisse. Donc on a de l'aventure, de l'amour, de l'humour. Il y a une scène avec une sorte de pancarte où ils mettent tous leurs noms pour annoncer l'entrée du ranch, qui est vraiment désopilante. Voilà, donc on est plongé dans cet ouest américain. C'est un peu la fin, hein, donc il y a encore des Indiens, mais plus trop. Il y a ces vastes espaces. On est complètement pris dans l'histoire. Et vraiment, alors lui, c'est le scénariste aussi de Brokeback Mountain. Excusez-moi du peu. Il est décédé, je crois, en 2021. Et on peut vraiment se plonger dans tous ces livres.
Et notamment la série des Duennes, qui est un héros extraordinaire, notamment Duennes et dépressifs, qui est un livre magnifique. Et son roman le plus connu, en 2 tomes, donc c'est Lonesome Dove, ce western, chez Gallmeister. Et là, c'est la version poche de Gallmeister. Et il y a 2 tomes. Donc c'est bien pour l'été. On peut se faire les 2 tomes tranquillement. C'est superbe. Donc Lonesome Dove, Larry McMurtry, Revenir à Berlin de Jonathan Lichtenstein et on a dit Mina Namous, Amour extérieur nuit, c'est chez Dalva. Merci beaucoup Sandrine.
Merci Nicolas.
Retour en studio toujours avec Olivier Norek dans les brumes de Caplan. C'est chez Michel Lafon et Sébastien Bordenave nous a rejoint. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier Norek, j'allais vous le présenter. Ah bah Sébastien voilà. Bordenave qui nous parle bande dessinée et qui est encore arrivé avec 2 albums.
Exactement, ce dimanche, 2 BD à ne pas mettre entre toutes les mains. Et pourtant, je ne vous cache pas que ce sont mes 2 énormes coups de cœur du moment.
Dites ça à chaque fois.
La première BD, eh ben c'est un véritable chef-d'œuvre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Crumb, le dieu vivant de la BD, le roi du roman graphique. Un roman graphique, c'est une histoire dessinée où on se met en scène, on raconte sa vie. Et la vie de Glenn Head, eh ben c'est le nom de l'auteur, elle va être bouleversée par son adolescence passée au manoir de Chartwell, d'où le titre de la BD, le manoir de Chartwell. Ce manoir était dans les années 70 un pensionnat catholique du New Jersey tenu par un directeur pervers, manipulateur et surtout prédateur sexuel. C'est ce que raconte la BD, tout y passe. Les chantages affectifs, la détresse des pensionnaires, les punitions corporelles et ensuite comment le directeur consolait, entre guillemets, les élèves après les sévices. Puis viennent les conséquences de ces traumatismes sur l'auteur, son addiction à la drogue, à l'alcool, au sexe. C'est simple, Glenn Head a mis plus de 50 ans pour avoir la force de tout raconter. Sachez qu'en vrai, le pensionnat a fermé en 1986. Le directeur a fait 7 ans de prison après avoir été condamné à 14. Oui. Il a admis avoir abusé de 14 ados alors que 50 l'accusaient. Il est mort en 2011. Le manoir de Chartwell est une BD coup de poing. Pour moi, c'est la BD de 2022. Je sais, l'année n'est pas finie, mais là, c'est quand même une grosse claque.
Prix Sébastien Bordenave.
Ouais.
La deuxième.
Eh ben la deuxième, elle est de Clou, K-L-O-U, c'est une première BD. Ça s'appelle « Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe ». Tout est dans le titre, c'est une BD au graphisme déstabilisant, tant par sa beauté que par son originalité. Les dessins, on dirait des tatouages, dans ma bouche c'est un compliment. La BD est un témoignage, Clou nous raconte comment elle est devenue travailleuse du sexe et surtout elle nous livre sa vision du métier en BD, des réflexions qui méritent beaucoup plus qu'une attention polie car elle sait de quoi elle parle. Elle explique que petite, elle a été marquée par l'histoire du grand méchant loup et que plus grande, elle a pris conscience que le loup, bah, valait mieux le dresser que d'en avoir peur. En devenant travailleuse du sexe, elle dit avoir décidé de ne plus être une proie, mais un appât. Puis elle détaille son fonctionnement personnel. Elle dit « Certaines personnes passent 5 jours sur 7 à faire de la compta. Moi, je ne pourrais pas. Certaines personnes ne pourraient pas consentir à échanger du sexe contre de l'argent. Moi, je peux. » Clou n'élude aucun sujet dans la BD. Être en couple et travailleuse du sexe, le plaisir avec les clients, l'annonce à la famille, les femmes forcées de se prostituer. À celle-là, elle témoigne de son soutien et rappelle qu'on trouve le même problème, par exemple, dans le textile avec l'exploitation des enfants pour faire des vêtements. Il ne faut donc pas se tromper d'ennemi pour elle. Ce n'est pas la prostitution qu'il faut combattre, mais la traite des êtres humains. En fait, elle explique qu'elle veut juste des droits, le droit à une retraite, le droit aux arrêts maladie. Elle explique que c'est parce que les travailleurs du sexe sont fragiles législativement que les hommes pensent pouvoir tout se permettre et que c'est l'État qui les oblige à exercer dans ce contexte. Bref, la BD développe des arguments passionnants, convaincants ou non.
Politique un peu.
Un peu politique, convaincants ou non, à vous de voir, à chacun de voir. Mm-hmm. En tout cas, c'est une BD sans vice. Bravo Clou, voilà, petit jeu de mots.
Avec un style très original.
Avec un style très original graphiquement. Exactement.
Vous avez une petite citation ?
Une petite citation BD, on termine comme à chaque fois.
Une rigolote.
Oui, rigolote. Aujourd'hui, elle est du super-héros Deadpool, qu'on connaît au cinéma, mais aussi dans les comics. On dit, pourquoi j'ai un costume rouge ? Pour que les méchants ne me voient pas saigner. Généralement, eux, ils ont un pantalon marron. Voilà.
Oh, c'est très c'est Deadpool, rigolo. Ça. Toujours très, très crade, Deadpool.
Toujours classe, Deadpool. Toujours classe, Deadpool.
Mais, et vous, Olivier Norek, vous lisez de la bande dessinée ?
Oui, j'en lis.
Et vous l'adaptez aussi, vos romans en bande dessinée ?
Oui, alors Surface, justement, cette fliquette défigurée, on est en phase de colorisation. Donc, ce sera pour la fin de l'année.
Vous participez ?
À toutes les étapes, ouais. J'ai toujours un œil sur ce qui sort, surtout qu'en plus Surface c'est mon roman le plus personnel, et on travaille aussi sur Entre deux mondes qui est mon roman le plus émotionnel. Et là pour le coup, autant Surface va être une BD, autant Entre deux mondes sera plus dirigé vers le roman graphique qui prend plus le temps de raconter l'histoire.
Et vous en lisez, vous, des BD?
Le problème avec les BD que je rencontre, c'est les tomes. C'est-à-dire que j'adorerais lire des comics. Je suis fan des comics. Par exemple, je suis fan de Batman, je suis fan de Deadpool, je suis fan de Spider-Man.
Batman, par exemple, c'est compliqué de trouver bonne série à suivre.
Je vais dans une librairie et comme il y en a 394, je ne sais pas par quel dessinateur commencer, par quelle histoire commencer, par quel univers commencer. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc c'est parfois le nombre d'épisodes qui va m'arrêter. Je préfère des one-shots.
Sébastien, vous nous ferez une chronique sur ce sujet un jour, s'il vous plaît, pour nous aider à nous y retrouver. En tout cas, là, c'est facile de s'y retrouver. Dans les brumes de Kaplan, c'est chez Michel Lafond et c'est le nouveau roman superbe d'Olivier Norek. Merci beaucoup Olivier.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, à Pierre-Yves Falson derrière la console et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.